France Inter.
Bonjour, Karine de Montélimar. J'appelle concernant les polluants éternels. Le lobby industriel, encore une fois, a bien travaillé auprès de nos parlementaires. Ils ont gagné. Ils ne seront soumis à aucune interdiction pour nos articles de cuisine. Mais dans le même temps, les analyses des eaux destinées à la consommation humaine seront obligatoires pour les mettre en évidence. Voilà un « en même temps » qui va plaire à M. Macron et à ses amis industriels, une fois de plus. Alors je pense à la phrase de Coluche, « quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça ne se vende pas, eh bien ne les achetons tout simplement plus tous ces produits, soyons plus intelligents. D'autres produits existent sur les marchés, beaucoup plus respectueux de nous et de notre environnement. Allez, courage, on va finir par y arriver. Merci la Terre au Carré, à bientôt.
Bonjour la Terre au Carré, c'est Antoine. J'appelle depuis Angers et je fais partie du collectif Les Sacoches du Climat. On est 8 jeunes scientifiques accompagnés par des chercheuses et chercheurs plus expérimentés et on fait une itinérance à vélo de Tours à Nantes du 2 au 11 avril en vélo et en vélo tandem pour échanger avec les habitants et les scolaires sur les questions climatiques et de biodiversité. Donc on a commencé par Luynes et Bourgueil, Saumur ensuite, Angers et ce lundi on va à Segré en Anjou bleu pour rejoindre la tournée du climat et de la biodiversité au parc des expositions où on sera jusqu'à demain. Ensuite on continue par Ancenis-Saint-Géréon et on finit au lycée de Bouguenay et à Nantes le soir au muséum d'histoire naturelle. Toutes les infos sont sur les sites sacocheclimat.ipsl.fr avec un S à sacoche et venez nombreux pour échanger avec nous et merci à la Terre au Carré.
Oui, bonjour, message de Adrienne Cotentin. Là, c'était pour faire suite au message de Marie-France autour de Plogoff années 80. Et je voulais dire, ok, oui, mais toutes les centrales nucléaires qui assurent pour le bien-être de tous et de toutes, ben, elles se retrouvent sur la presqu'île du Cotentin. Moi, j'étais sur les falaises de Flamanville pour manifester dans les années 80. Bon, le PR s'est construit malgré tout. La centrale de la Hague ronronnait déjà depuis quelques années. Mes parents s'étaient mobilisés contre, mais en vain. Et puis, la lutte continue avec et pour les plus jeunes qui n'en veulent plus. Rendez-vous les 13 et 14 avril pour une journée de mobilisation contre la piscine EDF. Ce rendez-vous est initié par le collectif Piscine Nucléaire Stop. Voilà, c'était un message de la part d'Adrienne et de ses filles Louise et Juliette. Au revoir.
Bonjour, la Terre au Carré, c'est Sophie de Verrières. C'est pour dire qu'une pétition pour la sauvegarde des forêts publiques en Île-de-France est en ligne. Vos signatures sont les bienvenues pour soutenir notre action à mieux protéger et sauvegarder nos forêts urbaines et périurbaines autour de Paris. Avec seulement 11 fois moins de surface de forêt par habitant que la moyenne en France métropolitaine, les forêts d'Île-de-France sont menacées par le réchauffement climatique, l'urbanisation et la surexploitation en forêt domaniale. Rejoignez-nous pour l'avenir de nos forêts franciliennes. Signez la pétition. À bientôt.
Voilà, on se mobilise toujours autant pour les forêts dans notre pays, ce qui réjouit notre invité. Merci en tout cas pour vos messages. 01 56 40 45 45. Parmi les quelques 400 000 espèces de plantes terrestres vivant sur notre planète, 73 000 seraient des espèces d'arbres. Et si vous êtes rapide en calcul mental, vous en êtes donc arrivé au résultat que plus d'une plante sur cinq est donc un arbre. Au cœur de cette diversité se trouvent des arbres qui peuvent être qualifiés, avec notre regard d'humain, de bizarres. Véritable originalité de la nature, ces arbres peuvent être fendus, multicolores, tordus, vissés ou hérissés de grosseur. Notre invité consacre un ouvrage à ces arbres insolites et intrigants. Et elle nous attend dans son cabinet de curiosité. Catherine Laine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous qui êtes botaniste au PIAF, le laboratoire INRAE, Université Clermont-Auvergne, en physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Vous êtes également enseignante-chercheuse en biologie végétale et donc vous publiez chez Belin. Vous avez dit bizarre, et c'est l'occasion de s'aventurer avec vous aux quatre coins du monde pour découvrir donc les acrobaties de la nature. On va se retrouver dans un instant pour en parler avec les questions qui arrivent sur la page de la Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux. Et si vous avez près de chez vous un arbre vraiment bizarre, eh bien n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça nous intéresse hautement. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Ouais, Sonam Wangchuk, est-ce que vous connaissez? C'est une figure de l'activisme écologique en Inde. Il a lancé un mouvement de grève de la faim pour que la région du Ladakh, dont il est originaire, dans l'Himalaya, très touchée par le changement climatique, ne soit pas oubliée.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Chantal Le Montagnier avec Théo Delobader à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Il est l'ancêtre de tous les cèdres pleureurs de la planète et vient d'être élu arbre de l'année 2015. Planté en 1895 à l'arboretum du domaine départemental de la Vallée au Loup, à Châtenay-Malabry, le cèdre bleu pleureur de l'Atlas a séduit un jury de spécialistes. Au-delà de son esthétique exceptionnelle, c'est bien l'histoire du cèdre pleureur qui a retenu l'attention du jury.
En l'occurrence, cet arbre, il n'aurait jamais dû exister, puisque c'est une anomalie, c'est une sorte de vilain petit canard. Sauf qu'il y a eu un pépiniériste qui a eu une idée de génie qui se dit « Ah bah celui-là il est bizarre, je vais le garder pour voir ce que ça va donner ».
Voilà, vidéo du département des Hauts-de-Seine en 2015, le cèdre de la Vallée au Loup. Il figure justement, Catherine Laine, dans vos arbres bizarres. On en parlera dans un instant parce que ces moutons à quatre pattes, à cinq pattes plutôt, vous les aimez beaucoup, hein, c'est ça?
Oui, effectivement, je les aime beaucoup parce qu'ils sortent de l'ordinaire, justement.
Qu'est-ce qu'on qualifie de bizarre, alors, quand on est scientifique comme vous? Parce que c'est quand même assez subjectif, au fond, un arbre
oui, tout à
bizarre.
Fait. C'est-à-dire qu'il faudrait se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est normal.
Ben oui.
donc, dans ce livre, justement, j'ai essayé de rappeler ce qu'on appelle un arbre, comment un arbre se porte, comment il pousse, c'est quoi être un arbre normal, et pour montrer comment les bizarbres s'écartent de cette normalité à tout bout de champ.
Ouais.
Et finalement, là, on peut aller à la conclusion directement, Mathieu, si vous le voulez bien, aucun arbre n'est normal, parce qu'on verra que ces arbres bizarres, ce sont des arbres qui ont en fait une histoire de vie.
Ouais, donc ils sortent quand même un petit peu du lot, mais finalement c'est aussi un regard très anthropocentré, non
sur... Alors en fait ils sortent du lot, mais ce que je voulais montrer, ce que je veux montrer dans ce livre, c'est que n'importe qui, en ouvrant un peu les yeux, des bizarbres vous en verrez partout.
Ouais.
Et c'est pas un livre sur les arbres remarquables, ce qu'on appelle l'arbre remarquable, c'est un livre sur tous les bizarreries des arbres qu'on ne voit même pas. Donc j'essaye d'ouvrir les yeux simplement au lecteur.
Et coup de chance, d'ailleurs, c'était vraiment l'arbre remarquable de l'année.
Oui, exprès.
Qui est en couverture de votre livre. Et qu'on a mis aussi par hasard, d'ailleurs, en story sur le compte Instagram de l'émission.
Oui.
Dites-nous de quel arbre il s'agit.
Alors, c'est le hêtre pleureur du jardin botanique de Bayeux, qui est de toute beauté et qui, effectivement, a été labellisé.
Arbre remarquable.
Voilà, choisi par le public cette année, arbre remarquable.
C'est ça. Donc en plus, il a été choisi par le public.
Oui.
Donc c'est dire. Voilà. Donc il fait la couve de votre livre et vous pouvez le voir si vous allez sur le compte Instagram de l'émission. Vous qui avez étudié de façon très pointue justement ces arbres, quel est pour vous en tout cas, parce que le livre est quand même dense, complet, quel est le plus dingo que vous ayez jamais vu?
Alors. Moi, je pense, c'est une catégorie plutôt d'arbres dingos, comme vous dites. Moi, ce qui me fascine, c'est la capacité qu'ont les arbres de se rattraper aux branches, entre guillemets, c'est-à-dire de se reconstruire après un accident. Donc, tout ce qui touche à la résilience de l'arbre, tout ce qui fait qu'un arbre incliné va retrouver la verticale, tout ce qui est photocopie de son tronc pour en refaire de nouveaux verticaux, ça me fascine.
Oui.
D'un arbre à terre... on peut, si on lui laisse le temps et l'occasion de le faire, il peut tout à fait redonner un arbre debout.
Et il y a des très belles photos d'ailleurs, d'arbres tordus dans votre ouvrage, on en parlera aussi tout à l'heure. Alors, un arbre ordinaire, c'est peut-être intéressant de s'y arrêter un instant, 73 000 espèces, hein, c'est ce que je disais, je vous citais d'ailleurs, puisque vous rappeliez ce chiffre. Qu'est-ce qui donc, d'un point de vue physique, distingue un arbre des autres végétaux, Catherine Laine,
alors? Pour être un arbre, il y a quelques points élémentaires dans le cahier des charges. Il faut être une plante, déjà. Il faut être une plante emplie de bois. Donc ça, c'est je vous parle là de la définition du botaniste, qui est aussi la définition du forestier. Hein. Donc l'arbre est plein de bois. Tous ses axes, le tronc, les branches, les racines. Il faut être élevé. Alors, la limite au-delà de laquelle on s'élève, bon, elle a été fixée à 7 mètres au-dessus du sol, mais c'est un peu arbitraire, hein, bien sûr.
En Europe, c'est ça? Ou c'est à peu près partout?
C'est à peu près partout, mais c'est surtout qu'il y a plein d'exceptions.
Ouais.
Donc, c'est un point de la définition qui pêche un peu.
Bon, donc il y aurait un petit minimum de 7 mètres, en tout cas.
À l'âge adulte, voilà.
À l'âge adulte.
Et le dernier point, c'est la longévité. Donc, effectivement, de vivre plus d'une année, quoi. C'est pour opposer ces arbres à toutes les plantes herbacées qui ne vivent... qu'une année.
Est-ce qu'on a une idée du nombre d'arbres sur Terre aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on arrive à les calculer ou
oui, il y a eu des publications, je ne me souviens plus de la date exacte, mais un petit peu avant 2021, puisque dans le livre précédent, je présentais ces travaux. Et le chiffre avancé, c'est 3000 milliards d'arbres. Mmh. Le problème, c'est que depuis 3 ans que je vous parle, la déforestation a avancé, on a replanté ailleurs. Donc le chiffre a pu varier, bien sûr. Ouais. Les incendies aussi.
Est-ce qu'un arbre grandit toute sa vie, Catherine Laine? Ça aussi, c'est une des spécificités?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, pendant toute la vie de l'arbre, des capacités de croissance qui vont bien sûr s'atténuer avec l'âge, mais chaque année, alors chez nous, sous nos climats tempérés où il y a des saisons, donc chaque printemps, la croissance de l'arbre reprend. Sous les tropiques, elle est plus continue, ou elle alterne entre une saison des pluies et une saison humide, mmh. éventuellement. Mais de toute façon, la capacité de croître, elle est présente pendant toute la vie de l'arbre.
Et qu'est-ce qui lui permet alors de grandir et de devenir grand et gros parfois?
C'est ça. Donc il a son secret, ce sont des massifs de cellules souches qui restent éternellement jeunes, en fait, hein, pendant toute la vie de l'arbre. Ces massifs de cellules souches, on les appelle des méristèmes. Ils sont situés dans les bourgeons et dans les pointes racinaires. Et puis, il y a aussi des couches de cellules souches sous l'écorce, qu'on appelle par exemple le cambium qui permet la fabrication du bois.
Ouais, alors il y a plein de schémas dans le livre qui sont très intéressants, parce qu'on découvre par exemple qu'au cœur du tronc, le bois est complètement mort et durci.
Oui, donc chez la plupart des arbres, parce qu'il y a là encore des exceptions, il y en a tout le temps, hein, mais dans la majorité des arbres, le bois ancien, celui qui se trouve au cœur du tronc, parce que le tronc pousse par la périphérie en fait, ouais. hein, donc tout ce qui se trouve au centre est ancien, âgé, et au bout d'un certain nombre d'années meurt. Donc oui, ce bois qui est au cœur de l'arbre, qu'on appelle le bois de cœur ou le duramen, est complètement mort.
Et est-ce que tous les arbres ont des écorces également? Est-ce que ça, c'est une des composantes aussi des arbres?
Alors, c'est une composante des plantes ligneuses, ouais. c'est-à-dire ces plantes qui sont emplies de bois. Toutes ces plantes ligneuses sont recouvertes d'un tissu protecteur qu'on appelle le liège, et c'est ce que le grand public appelle l'écorce. C'est l'écorce que l'on voit à l'extérieur, donc c'est le liège. Ouais. C'est le même tissu pour tous, mais pas que pour les arbres, aussi pour les arbustes, mais également les arbrisseaux, comme vos pieds de lavande ou vos pieds de thym, sont recouverts ouais. de liège.
Et un liège plus ou moins épais selon l'espèce d'arbre aussi?
Un liège plus ou moins épais, et puis plus ou moins... sa fabrication peut varier un peu d'une essence à l'autre, ce qui va expliquer la diversité des écorces. Ouais.
Et puis, autre point sur l'arbre ordinaire, en tout cas normal entre guillemets, en mettant plein de guillemets, le système racinaire de la plupart des arbres tempérés est peu profond et dépasse rarement le mètre.
Oui, alors effectivement, ça c'est souvent c'est une idée reçue qu'on a. Ouais. Oui, on pense souvent que quand on regarde un arbre, la partie aérienne, on pense qu'il y a la même chose en bas, dans le sol, en miroir. Mais en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que cet appareil racinaire, il se développe plutôt à l'horizontale.
C'est ça, il peut s'étendre énormément.
Il peut s'étendre énormément à l'horizontale.
Mais pas forcément beaucoup en profondeur.
Assez peu.
En tout cas,
il y a des exceptions aussi, mais même chez nos arbres à nous, il peut y avoir des arbres qui ont des pivots qui peuvent s'enfoncer un peu plus à quelques mètres de profondeur. Ouais. Mais en règle générale, un arbre, c'est plutôt une espèce de culbuto à la base très étalée qui s'insinue dans le premier mètre du sol.
Donc là, ça va. On a nos définitions pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un arbre à peu près ordinaire. Et puis, on va entrer dans le monde des bizarreries. Alors là, il y en a, hein, parce que votre livre fait combien? 600 pages carrément.
Pas loin, oui. Beaucoup de photos.
Beaucoup de photos, évidemment, que vous prenez d'ailleurs vous-même beaucoup.
Oui, ouais. la quasi-totalité des photos sont les miennes. Oui.
En tant que botaniste, vous sortez toujours avec votre appareil dans la nature.
Oui, oui.
Ouais. Et alors, ce qui est extraordinaire, vous le disiez, c'est que ces arbres étonnants, bizarres, on en a tous autour de nous.
Partout, hein. Regardez, en venant ce matin, j'ai pris l'allée au Cygne à Paris.
Ouais.
J'ai mon portable.
Qu'est-ce que vous avez vu?
Eh bien, j'ai vu des tas d'arbres. Il y a bien sûr des tilleuls, des marronniers, des noyers, des érables.
Mais en quoi ils étaient bizarres, alors, par exemple, ces arbres parisiens?
Eh bien, je retrouve certaines de mes bizarreries, les bourrelets d'écorce, les bourrelets autour des blessures, par exemple, les formes liées justement à la réverbération de la lumière sur la scène. Même cette allée, elle est intéressante. Donc, ça veut dire que tout le monde peut voir autour de chez lui des bizarres.
Il suffit d'ouvrir l'œil pour les observer autour de soi et puis d'être accompagné aussi par votre livre. Ça peut aider pour en savoir plus sur ces bizarreries que nous allons découvrir et décrire avec vous dans un instant. Catherine Laine.
Quand au foot camp, que la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent.
Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment.
Le sel, c'était Olivia Ruiz sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Cet arbre, il peut être par exemple attaqué par, on va dire, des chenilles, des insectes ou bien des mammifères. Eh bien, chacun a sa propre salive et donc l'arbre va pouvoir les identifier et adapter sa défense. Par exemple, dans le cas d'une biche, eh bien, certains arbres sont capables d'envoyer dans leurs feuilles des tanins toxiques qui vont rendre les feuilles amères et dégoûter la biche de son repas. Et d'autres espèces sont même capables de diffuser en fait des gaz tout autour pour prévenir les autres voisins, eh bien, de l'attaque.
Voilà, la défense des arbres en 2017 sur France 2. Alors, ce sont pas forcément des arbres bizarres, mais en tout cas des arbres qui ont sensibles. Des stratégies sensibles pour se défendre. Et ça, c'est fascinant quand même, Catherine.
Oui, la sensibilité des arbres, c'est là-dessus que mon équipe de recherche travaille. Ouais. Nous étudions les capacités des arbres à percevoir les facteurs de leur environnement et à y répondre de manière adaptée.
Donc, là, c'est exactement le cas.
C'est ça, c'est des histoires de blessures, des histoires d'attaques. Nous, on travaille sur le vent, la gravité, on travaille aussi sur la lumière, le froid, etc.
Ouais, alors, vous nous disiez tout à l'heure qu'en venant à la radio, vous avez traversé l'île au Cygne, hein, qui est juste en face, oui. Sur la Seine, et que vous avez vu des arbres que vous qualifiez justement de bizarres. Oui. En tout cas, des arbres qui sont agressés aussi à l'arme blanche, puisque là, les arbres qui sont d'ailleurs en photo dans votre livre, ce sont des arbres sur lesquels on fait des graffitis en sculptant dans l'écorce.
Oui, ça c'est quelque chose d'assez fréquent, hein, les gens, les amoureux, les imbéciles heureux, je les appelle. qui gravent leurs initiales sur l'écorce d'un arbre sans penser à mal. Mais en faisant cela, ils créent une blessure sur l'écorce. Si le couteau ne s'enfonce pas trop, c'est pas très grave non plus. Si le couteau et si l'écorce de l'arbre est assez fine, ça va atteindre les parties vivantes de l'arbre qui sont juste sous l'écorce. En particulier le cambium dont nous parlions, qui est la partie qui fabrique le bois.
Et ça peut condamner l'arbre à moyen terme ou pas ?
Non, ça ne va pas le condamner parce que c'est une blessure à un endroit. Et si l'arbre est en bonne santé, il va simplement compartimenter la blessure. C'est-à-dire qu'il va autour de cette blessure, il va construire un mur de défense avec des substances toxiques pour arrêter les pathogènes. Donc il va compartimenter, il fait la politique de la terre brûlée autour de la blessure, l'arbre. Mais s'il est quand même pas en bonne santé, ça peut être embêtant quand même.
Alors il y a des choses superbes, hein, où il y a une photo des aborigènes d'Australie par exemple, qui auscultent aussi le tronc des arbres. C'est magnifique.
C'est magnifique. Cette photo, en fait, c'est une sculpture sur le bois mort. C'est-à-dire que l'arbre était déjà blessé, il était écorcé sur une partie, et on voit donc cette gravure, cette sculpture sur le bois mort.
Oui, date de 1910, en tout cas pour la photo.
Pour la photo, oui.
On vous a demandé si vous aviez autour de vous des arbres bizarres, étonnants, mais je crois que c'est le cas,
oui,
Camille.
Oui, on a même Anne qui nous écrit de Marie-Galante, donc bonjour à la Guadeloupe. Dans la forêt tropicale, nous dit-elle, je vois souvent des arbres dont le tronc est couvert d'épines, et elle demande si c'est propre à cet arbre-là, alors elle ne donne pas le nom, ou si ce sont des épines parasites qui peuvent coloniser n'importe quel arbre, et elle demande aussi, enfin elle l'écrit aussi, l'arbre à saucisson est très rigolo, donc éclairez-nous sur ces deux spécimens.
Je vous remercie de la question, et en même temps je vais avouer mon incompétence, à savoir que je ne connais pas les arbres tropicaux. Donc je ne serais pas capable de donner le nom de ces deux arbres-là, par contre je les ai déjà vus en photo.
Qu'est-ce que c'est beau d'ailleurs, les arbres à épines.
Et pour répondre à cette personne, effectivement, là c'est bien spécifique, c'est-à-dire que c'est la présence de ces épines spectaculaires, c'est l'essence de l'arbre, c'est dans son patrimoine génétique de fabriquer ces épines.
Et l'arbre à saucisson, vous connaissez ?
Non, pas spécialement.
Regardez.
Je connais le saucisson, mais moins l'arbre à saucisson.
Vous parlez des feuilles sardines en début de livre. Ça, ce sont de véritables origamis. Et c'est assez étonnant parce que c'est la capacité justement qu'ont les feuilles de se plier.
C'est ça, en fait.
Il y a une fonction particulière à ça ou
alors,
pas ?
Alors, tout simplement, étant donné que les feuilles que vous voyez en ce moment, là, au printemps, que vous voyez sortir sur les arbres, ces feuilles, elles ont été fabriquées l'été dernier. Elles sont là, depuis l'été dernier, au cœur des bourgeons, qui ont passé tout l'hiver sur les branches. Et donc, un bourgeon, c'est pas gros, d'ailleurs, souvent, les gens ne les voient pas sur les branches en hiver. Donc, vous imaginez, elles sont minuscules, et en plus, elles sont complètement repliées, serrées les unes contre les autres dans ce bourgeon pour occuper le moins de place possible. C'est pour ça que je les appelle les feuilles sardines, comme des sardines dans une boîte. Donc ce qui est fascinant là, et qui est bizarre, et ça vaut le coup de mettre son nez sur une jeune branche qui se déploie au printemps, c'est de voir se déplier ces feuilles, et de voir que ça se déplie pas au hasard. Ça n'était pas plié au hasard, ça ne se déplie pas au hasard. C'est plié le long des nervures, et le déploiement d'une feuille, il y a des lois de la physique derrière.
Et ça, on le voit chez quel type d'arbre,
alors,
par exemple ?
Alors là, celles que je présente, ce sont les feuilles de hêtre, les feuilles de charme, par exemple, mais toutes les feuilles ont des pliures, bien sûr, bien
organisées selon le type d'arbre.
Bon, il y a un mystère sur franceinter.fr qui intrigue beaucoup les auditrices et les auditeurs. On a Patrice qui nous écrit, y a-t-il un début de réponse pour expliquer scientifiquement la formation des faux de Verzy, être tortillard de la montagne de Reims, et celle des érables ondés du sud meusien, si cher dans les deux sens du terme, au luthier. Florent, à Verzy dans la Marne, des hêtres sont complètement tordus. Existe-t-il d'autres endroits où les faux poussent d'une manière similaire et claire ? Est-ce que votre invité connaît l'existence des faux, donc hêtres et chênes ? Éclairez-nous sur ces faux.
Vous voilà mitraillé de questions.
Alors, premier élément de réponse pour ce monsieur, donc le bizarre qui s'appelle le zigzagueur, dans la première partie du livre, eh bien c'est lui. Donc les faux, ce qu'on appelle un faux, le mot faux d'ailleurs, ça vient de fagus en latin, c'est le hêtre, hein, c'est le mot de vieux français pour désigner le hêtre, le faux, le faillard. Mais actuellement, on a dérivé, ce qu'on appelle un faux maintenant, ce sont les hêtres tortillards, ces hêtres dont les branches ne poussent pas droit, elles poussent en zigzag. Et effectivement, vous avez cité la forêt de Verzy, c'est-à-dire cette zone proche de Reims, sur la montagne de Reims, où le nombre de faux de tortillards est très élevé. La question aussi, c'était est-ce qu'il y en a ailleurs ? Oui,
c'était d'abord, est-ce qu'il y a une explication scientifique ?
Alors, j'y viens à la fin. Donc, est-ce qu'il y en a ailleurs ? Oui, bien sûr. En fait, il y en a normalement dans toute la zone de répartition du hêtre en Europe. C'est-à-dire que les tortillards ont accompagné l'émigration du hêtre normal, et il y avait des tortillards en même temps que des hêtres normaux. Par contre, quand on en trouve, ils sont quand même assez rares, parce que ils ont vraisemblablement une fragilité par rapport à la sécheresse, par rapport aux conditions climatiques, qui font que, ils peuvent ne pas être vraiment pérenne.
Alors pourquoi, et la réponse, pourquoi il sortit voilà.
Pourquoi il sortit? Eh bien écoutez, ça fait l'objet d'un programme de recherche actuellement qui est porté par un laboratoire à Bordeaux. Le laboratoire s'appelle Biogeco. C'est un laboratoire qui travaille sur la génétique des arbres et qui a fait d'ailleurs appel à moi pour aller en identifier en Auvergne, puisque je suis auvergnate. Et il y en a chez moi en Auvergne, j'en connais, je peux vous emmener sur quelques sites où j'en connais. Et donc, ils sont venus faire des prélèvements et ils comparent le génome, c'est-à-dire le patrimoine génétique d'un être normal et d'un être tortillard, pour essayer de chercher où est l'erreur.
Donc on ne sait toujours pas.
Il pourrait y avoir un environnement propice à ça ou pas quand même ?
Non, donc ce qu'on voit, c'est que c'est génétique, c'est une mutation dans le patrimoine génétique du être normal, c'est-à-dire que le faux, le tortillard, est un être normal muté. Donc il y a un gène, quelque part, qui est abîmé par une mutation et qui fait que ça tortille. Comment c'est possible, ça? Eh bien, une mutation, ça peut être soit un défaut lié, par exemple, le rayonnement solaire qui peut abîmer l'ADN, hein, qui peut abîmer les chromosomes de l'arbre. Mais là, ça serait un transposon. Un transposon, c'est un petit bout d'ADN d'un chromosome qui saute et qui change de chromosome. Vous en avez plein dans vos corps, Mathieu, Camille. Nous avons des transposons. Les plantes ont énormément de transposons dans leur patrimoine génétique. Et donc, ce transposon qui sauterait viendrait s'insérer dans un gène qui causerait le tortillement. Mmh. Quel gène? Ben, pour l'instant, on ne sait pas encore.
En tout cas, ce qui est formidable, c'est que malgré le fait qu'il soit tortillé dans tous les sens, ben, il vit très bien.
Hein, finalement, il vit très bien.
Il s'est adapté aussi.
Oui, il s'est adapté. Il a même vraisemblablement une longévité peut-être plus augmentée. Et en tout cas, alors je parlais de fragilité tout à l'heure, quand il pousse dans un environnement protecteur, comme par exemple la montagne, la hêtraie de la montagne de Reims, où là, il pousse sous le couvert de des normaux, mmh. Et bien là, il est plus protégé dans une atmosphère humide. Et donc, c'est vraisemblablement à cause de ces conditions qu'on en trouve beaucoup à Verzy.
Catherine Laine, vous restez avec nous. Vous avez dit Bizarbre, c'est chez Belin.
France Inter, la Terre au carré.
2h30, on passe au vert, Camille Cronier.
Et je vous parle d'un sacré personnage aujourd'hui, un Indien qui a fait la une ces dernières semaines là-bas. Sonam Wangchuk, ingénieur malin et imaginatif qui a même inspiré un film de Bollywood. Il s'est notamment fait connaître pour avoir ouvert un centre de formation modèle en termes d'énergie renouvelable et inventé un système de récupération d'eau vertueux qui permet depuis une dizaine d'années aux habitants de son Ladakh natal d'avoir de l'eau pour cultiver, de quoi se nourrir. Parce que cette région reculée de l'Inde, donc dans l'Himalaya, aussi froide que déserte, est touchée par la hausse des températures, comme les sommets grandioses qu'elle regarde. Les chutes de neige se réduisent autant que les glaciers reculent, entre 20 et 47% aujourd'hui, privant d'eau les terres et les habitants de ces lointaines contrées. Et donc, Sonam Wangchuk a désormais l'étiquette d'activiste climatique. Il vient d'achever 21 jours de grève de la faim pour que le Ladakh soit protégé. Il disait ça le 6 mars dernier, au moment de commencer. Je suis Sonam Wangchuk, m'adressant aux habitants du monde entier depuis l'Himalaya indien, une ville qui s'appelle Leh au Ladakh, à 3500 mètres d'altitude. Nos glaciers fondent très vite, provoquant alternativement sécheresse ou inondation soudaine. Très bientôt, beaucoup d'entre nous seront des réfugiés climatiques et nous devons protéger cela. Ces glaciers nourrissent environ 2 milliards de personnes, directement ou indirectement. Pour aider à sauver ces montagnes himalayennes, vous, les gens dans les grandes villes du monde, pouvez contribuer grandement. D'abord, s'il vous plaît, vivez de façon plus simple dans vos grandes villes, parce que votre style de vie ultra-carboné provoque le changement climatique, le réchauffement climatique et la fonte de nos glaciers. Et votre consumérisme aveugle et sans limite est la raison pour laquelle de plus en plus de minerais sont nécessaires et de plus en plus de mines. Et c'est pour ça que les industries viennent ici dans l'Himalaya, frappant à nos portes, brisant même nos portes, pour accéder et exploiter ces montagnes et ces vallées. Donc je vous demande à vous, habitants du monde entier, de vivre, s'il vous plaît, simplement dans vos grandes villes, pour que nous, dans nos montagnes, on peut juste vivre. Nous en avons le droit.
Le voilà parti pour 21 jours, le même temps que Gandhi, relayé ensuite par des femmes, puis des jeunes, puis des moines, puis des anciens, avant de repartir pour un nouveau cycle de 21 jours. 21 jours pendant lesquels il a souffert.
Today, unfortunately, I'm not feeling energetic. Feel very tired and my whole body is aching.
Voilà, fatigué, son corps qui a mal, mais des centaines de personnes pour le soutenir. Lui et la cause passaient la nuit avec lui, avec parfois moins 16 degrés au thermomètre, et des milliers d'autres, jusqu'à 6000, se sont relayés pour ne se nourrir que d'eau et de sel comme lui, un jour, deux jours, ou plus.
Dear friends, it's my birthday and I decided to spend it in Leh, Ladakh, with Wangchuk.
Là, par exemple, c'est Prakash Raj, un acteur super connu en Inde, 3 millions d'abonnés sur X. Ouvertement aussi contre le Premier ministre Modi. Alors à ce sujet, Sonam Wangchuk se défend de vouloir faire de la politique, mais il a voulu bien sûr interpeller Modi à travers cette grève de la faim collective. Il l'a expliqué à la télé juste après avoir arrêté.
Nous voulions montrer que nous allons nous infliger de la douleur et de la souffrance à nous-mêmes uniquement et personne d'autre pour que nos voix soient entendues au bon endroit. Donc, on va continuer. On ne sait pas quand aura lieu le coup final qui fera fondre le cœur de pierre de nos dirigeants. Mais si ça ne les touche pas, alors quoi d'autre peut le faire dans une démocratie?
Mais le présentateur lui oppose avec raison que rien n'a bougé depuis. Les dirigeants politiques n'ont pas levé un sourcil. Wangchuk ne le voit pas comme ça. Nous avons accompli beaucoup. Il y a des rassemblements, il y a des grèves de la faim partout. Il y a des discussions sur la fragilité de l'Himalaya et la futilité de tout ce qui a l'étiquette de développement qui finit en fait en désastre dont les locaux paient les conséquences et les réparations. La lutte donc continue et Sonam Wangchuk est déjà revenu sur place après un très court passage à l'hôpital.
Merci beaucoup Camille Cronier, on peut réécouter cette histoire sur la page de La Terre au Carré.
Catherine Laine, ce genre de discours du fin fond de la montagne de l'Himalaya, alors c'est quand même une grande ville, mais je veux dire qu'il s'adresse plus aux grandes villes, aux grandes villes occidentales.
Il a tellement raison dans nos modes de vie consuméristes, on voit pas, nous on n'est pas encore des réfugiés climatiques. Et donc on oublie que nos modes de vie, notre consommation à outrance, les minerais dont on a besoin pour tout, eh bien on va les chercher ailleurs, et puis on s'en fout quoi. Donc en vous écoutant Camille, ça m'évoquait d'autres activistes locaux et des actions autour des arbres. Je pensais à Thomas Braille et à ses écureuils. Et je me dis que tous ces gens-là, s'ils se donnaient la main à travers le monde, on y arriverait peut-être. Mais ce sont des messages nécessaires de toute façon.
Catherine Laine, vous êtes avec nous jusqu'à 15h dans La Terre au Carré. Et c'était Fat White Family sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
En décembre 1999, beaucoup de hêtres dans la région de Nancy sont tombés. Pourquoi ? Eh bien, parce que la nature du sol est également très importante. Dans cette région, les racines se heurtent à une couche de calcaire peu profonde et très compacte. Elle s'étale un peu comme des racines traçantes. Mais ce n'est pas tout. Le sol est extrêmement riche. Aussi, les arbres grandissent plus vite qu'ailleurs. En décembre 1999, quand le vent s'est mis à souffler très fort, ces hêtres, plus hauts qu'ailleurs et n'ayant pas une bonne assise, n'ont pas pu résister à la violence du souffle. Ils sont tombés.
C'est pas sorcier 2017. Catherine Laine avec nous sur ce livre chez Belin. Vous avez dit bizarre, mais cet épisode de 1999 qui était vraiment un épisode dur pour les arbres.
Hein. Oui.
Il y en a eu d'autres depuis ou pas?
Oui. Depuis les années 2000.
Est-ce qu'on peut 2010, considérer que la sécheresse, par exemple, estivale, c'est une façon aussi d'atteindre les arbres comme peut l'être une tempête?
Bien sûr, oui. Toutes ces contraintes climatiques, que ce soit le manque d'eau, les fortes températures, le vent, bien sûr, les tempêtes, tout ça impacte les arbres, bien sûr.
Il y a énormément de choses qu'on apprend dans votre livre. Moi qui aime beaucoup, par exemple, les cyprès d'Italie, hein, comme plein de gens, là, ces arbres de Toscane, j'ai appris qu'ils avaient une forme fastigiée.
C'est ça.
Hein, c'est ça. Qui se dresse donc au lieu de s'étaler.
Fastigié, ça veut dire effectivement dresser en pointe en fait. Ce sont des arbres qui ont une sorte de forme de flèche ou de flamme.
Exactement. Vous en avez d'ailleurs chez vous en Auvergne ou pas ?
Alors on a des peupliers d'Italie comme partout en France.
Parce que c'est très résistant au fond.
Alors c'est surtout que ça prend pas beaucoup de place.
Oui, ça c'est
donc,
sûr.
On en met parfois dans les parcs urbains. Et là aussi, encore une fois, j'en ai vu là à Paris en venant à pied des chênes fastigiés. Ça prend pas de place en fait.
Ça. Et ça résiste bien au froid quand même, vous le précisez aussi. Hein.
Alors, je ne sais pas si ça résiste mieux au froid. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la forme de ces arbres est encore une fois une histoire de génétique. Hein. Donc c'est lié à certains gènes mutés qui font que les arbres jettent leurs bras au ciel.
Allez, encore un regard sur le livre et puis ensuite on passe aux questions parce qu'elles sont très nombreuses. Il y a une des photos moi que j'ai trouvée vraiment stupéfiante et magnifique. Ces arbres qui se prennent pour Van Gogh, c'est page 358 de votre livre. Et on a mis d'ailleurs la photo sur le compte Instagram de La Terre au Carré. Allez voir ça parce que moi j'avais jamais vu une écorce comme ça, multicolore. Mmh. On dirait qu'on a badigeonné le tronc de peinture et ça c'est totalement naturel.
Oui.
C'est quoi ce phénomène arc-en-ciel alors ?
Alors en fait, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que chaque bizarre de cette galerie de portraits, c'est un prétexte pour aller expliquer des choses de science autour d'un point. Les arbres peintres, c'est pour aller expliquer comment le liège se met en place, comment il est fabriqué par les arbres, en fait. Et donc, pour avoir ces arbres-là, vous avez le cyprès de l'Arizona, l'eucalyptus arc-en-ciel, ou même le platane, eh bien, c'est parce que l'écorce se renouvelle par morceaux. Elle ne se renouvelle pas d'un seul coup. C'est-à-dire que la peau de ces arbres, elle pèle, en fait.
Oui.
D'accord? Ces arbres se desquament. Et les morceaux d'écorce qui tombent vont révéler des couches d'écorce plus profondes, qui sont plus jeunes, et dans lesquelles il y a encore des pigments, il y a encore des couleurs. Donc, bien sûr, on a des couleurs qui sont spectaculaires pour l'eucalyptus arc-en-ciel ou le cyprès de l'Arizona.
Oui.
Un peu moins pour le platane, encore que c'est partant de pluie, un tronc mouillé de platane, c'est aussi très coloré. Donc, c'est effectivement lié à des cellules qui restent vivantes encore dans ces plaques d'écorce très jeunes.
Au moment où l'arbre desquame,
ces plaques plus jeunes apparaissent. Elles ont à leur base des cellules encore vivantes qui contiennent des pigments. Si c'est du vert, c'est des chlorophylles. Si c'est du rouge, il y a des anthocyanes, des choses comme ça. Et ensuite, les plaques vont tomber petit à petit.
Bon.
Donc, ce sont des particuliers, des bizarres, qui parlent pour tous les autres, hein, pour tous ceux qui font du liège plus marron.
Mais qu'est-ce que c'est beau, en tout cas. Allez voir donc cette photo sur Instagram. Romane Lévy, vous avez mis entre autres une photo de cyprès de l'Arizona. C'est en story sur le compte de l'émission.
Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les agressions à l'arme blanche. Les graffitis sur les troncs d'arbres fait pas mal réagir. Christophe nous écrit, moi je culpabilise du coup à entendre votre invité. Est-ce que je fais bien de tailler les arbres ? Alors il dit pas lesquels. Et Charles-Élie ajoute, nos services d'entretien des routes pratiquent des élagages sans qualification, souvent à la mauvaise période, sans parler des blessures créées par les passages de machines. Est-ce qu'il demande si les services publics seraient responsables de la maltraitance des arbres ? Alors, sur la taille et sur...
La première chose à dire, c'est qu'un arbre, ça ne se taille pas. Voilà, point. Un arbre, il est programmé pour pousser, pour mettre en place son architecture, il n'a pas besoin d'être taillé. Là-dessus, nous, hommes et femmes, êtres humains, on exploite les arbres parce qu'on a besoin de bois. Et je suis la première à le dire, parce que moi aussi, j'ai un mur de lambris, je mets des bûches dans ma cheminée et j'ai des meubles, comme tout le monde. D'accord ? Donc, on utilise le bois, on a besoin de bois. Donc, on va couper des troncs, couper des arbres. On exploite donc nos forêts. Mais on peut aussi avoir des modes d'exploitation des arbres qui respectent l'arbre et qui le laissent en place. Par exemple, quand on mène des tailles d'arbres, dit en trogne.
Ah voilà.
La fameuse trogne, c'est quoi ? Une trogne, c'est un arbre qu'on a étêté dans sa jeunesse, qui va, comme il est jeune et plein de vigueur, au niveau de la zone de coupe, dès l'année d'après, il va se mettre à faire des gourmands, des rejets, et il va réitérer son architecture, il recommence, il fait des petits arbres au sommet du tronc qu'on a coupé. Et on va les couper comme ça périodiquement, tous les 5 ans, tous les 10 ans, pour récupérer ce bois qui fait du bois de chauffe, qui fait également du fourrage pour le bétail. La trogne, c'est par excellence l'arbre paysan, c'est l'arbre du bocage. On a exploité les arbres en trogne depuis des siècles et des siècles. Et ça serait bien qu'on y revienne, parce qu'en faisant cela, on récupère du bois, on exploite l'arbre, mais on ne le tue pas, il est toujours là, et il recommence, il repousse, et en plus on allonge sa longévité, on allonge sa durée de vie, ça a été montré, hein, des trognes qui, normalement, un hêtre doit vivre 200 ans tout au plus, et on a des trognes de hêtres qui ont le double de cet âge-là.
Et ça n'a pas d'incidence sur sa croissance ?
Donc justement, voilà, donc pour répondre à l'inquiétude de ce monsieur qui dit il faut plus que je taille mes arbres, je ne sais pas pourquoi il les taille, ces arbres. Si ce sont des fruitiers, il les taille pour acquérir une architecture qui va lui assurer un peu moins de fruits peut-être, mais plus riche en sucre, etc. C'est tout un art de tailler un arbre fruitier pour avoir une bonne récolte. Donc là, évidemment, on le fait, parce que nous aussi, on a besoin de se nourrir de fruits. Donc, la taille même, ben non, ça fait rien à l'arbre, parce que l'arbre, si vous voulez, le corps de l'arbre, je dis souvent le corps de l'arbre, mais c'est pas comparable à notre corps. Nous avons, comment dire, une haute idée de l'intégrité de notre corps. Mathieu, si je vous coupe un bras, bon, vous allez peut-être survivre. Il va pas repousser. Vous allez peut-être survivre. Si je vous coupe la tête, il n'y aura plus de Mathieu Vidard. Donc, un arbre, il peut perdre une branche maîtresse, qui est d'ailleurs comme un jeune arbre, hein, comme un arbre qu'il portait sur son tronc, et ça va repousser, ça va se reconstruire.
Mais les élagueurs, ceux qui font ça professionnellement et à qui les gens ont recours parfois, ils savent quand même,
bien sûr. Et donc justement, quand vous avez besoin de faire tailler des arbres, parce qu'il y a des questions de sécurité, dans votre jardin, dans le parc où vous accueillez du public, dans les villes, si vous êtes le maire, vous avez un devoir de sécurité envers les gens qui passent sous les branches de ces arbres. Donc effectivement, il faut surveiller et il faut élaguer s'il y a un risque. Mais il faut faire appel à un vrai élagueur, un arboriste grimpeur, ça s'appelle. Ce sont les écureuils dont
je parlais
tout à l'heure.
À Thomas Braille. Voilà. Et ces jeunes qui sont formés maintenant à cette école de l'élagage, où la première règle qu'on apprend, c'est un arbre, ça ne se taille pas.
Okay.
Donc on taille le moins possible, mais on peut tailler quand on en a besoin,
oui,
évidemment.
Puis après, il y a les voisins aussi, parfois. Donc,
Il faut les persuader que les branches qui font de l'ombre sur leur piscine, eh bien, c'est très agréable quand l'été est très chaud, il vaut mieux avoir de l'ombre, et que cet arbre, il apporte un confort de vie, qu'une fois l'arbre enlevé, la piscine, on ne pourra plus s'y baigner quand il fera 45 à 50 degrés au soleil.
Est-ce que la trogne, pour finir là-dessus, ça concerne toujours la tête de l'arbre ou pas ?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que le principe de la trogne, c'est la tête de l'arbre qu'on élague. Et puis ensuite, on peut mener des arbres en multitrogne. Par exemple, souvent, les platanes dans nos villes, où vous voyez toutes ces branches qui se terminent par des points. Ouais, on appelle ça la taille en tête de chat. Chaque tête de chat, c'est une mini-trogne.
Vous parliez de l'âge tout à l'heure, de la longévité. Karim voudrait savoir quel âge a le plus vieil arbre vivant sur Terre. Est-ce que vous le savez ?
Ouais. Alors ça, c'est dans la liste des records. Donc, le plus vieil arbre individu connu jusqu'à présent, parce qu'il est possible qu'on n'ait pas encore mis la main sur un plus vieux, il se trouverait dans les montagnes rocheuses aux États-Unis. C'est un pin, un Pinus longeava, qui a 4850 ans.
Quand même.
C'est pas mal.
Vous parlez des ginkgo, justement,
oui.
Parce qu'on dit souvent que le ginkgo, oui. C'est l'arbre le plus ancien du monde et qui serait même apparu bien avant les dinosaures.
Oui.
C'est vrai ou c'est pas
oui,
vrai
Oui, c'est vrai, tout ouais. à fait. Donc, en fait, je parle du ginkgo, oui, parce que je l'ai mis dans les bizarbres,
ouais.
parce que c'est quand même un arbre bizarre. Et c'est un arbre, comment dire, qui est un ancêtre. Par
un
rapport...
fossile vivant,
alors,
disait Darwin.
Oui, mais Darwin se trompait. Enfin, un fossile vivant, ça n'existe pas. Un fossile, c'est
en
mort.
En tout cas, la mémoire
oui.
d'un temps
Ce qu'il voulait
très
dire,
ancien.
C'est que ce ginkgo avait l'air de n'avoir pas évolué par rapport aux fossiles de ginkgo qu'on trouvait. Mais bien sûr que si, il a évolué. Tout évolue,
ouais.
bien sûr.
Et vous nous dites que c'est un arbre dioïque, c'est-à-dire que les oui. sexes sont séparés.
C'est
On
ça.
A des arbres mâles
oui.
et des arbres femelles.
Oui, et c'est assez rare. Hein.
Ouais.
Dans le monde des arbres, c'est assez rare. L'évolution a plutôt modernisé la sexualité en mettant sexe mâle et femelle sur le ouais. même pied.
Et ils pondent des œufs.
Ils pondent des œufs.
Qui pue. En plus.
Voilà, donc ça c'est pour rire. Ils pondent des œufs parce qu'en fait c'est le même principe que l'œuf de poule.
Ouais.
Parce que ces ovules qui sont qui vont une fois fécondés donner les embryons et les petits ginkgo.
Ils vont tomber au sol.
Ils vont tomber au sol et ils se remplissent de réserves alors même qu'ils n'ont pas encore été fécondés.
C'est ça.
Et donc s'ils ne sont pas fécondés, eh bien l'arbre a rempli de réserves ses œufs pour rien. Donc exactement comme la poule. C'est pour ça que je dis que le ginkgo pond des œufs.
Avec une odeur nauséabonde.
Des petites oui. précisions. Céline de Martinique, cette fois, nous dit que l'arbre à épines en Martinique s'appelle le fromager. Donc
Merci.
C'est peut-être applicable à la Guadeloupe. Et Thaïs nous précise que l'arbre à saucisson, lui, s'appelle le kigelia. Voilà, comme ça, on est éclairé. Mmh. Autre question de Philippe, un petit peu plus pratique. Il a un érable champêtre qui doit avoir à peu près 50 ans et qui est complètement creux, nous dit-il.
Mmh.
Combien d'années peut-il encore vivre ?
Oula ! Eh bien, ça creux, c'est pas très grave, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'intérieur du tronc est mort. Le bois du cœur de l'arbre est mort. Donc si ce bois pourrit et disparaît, ça n'empêche pas la vie de l'arbre. Par contre, ça peut avoir un impact sur sa mécanique, sur sa tenue verticale. Un cylindre creux, vous voyez, je prends un truc de physique, hein, vous prenez un rouleau de sopalin vide, vous le posez sur votre table, il tient debout, il est creux. Donc il n'y a pas besoin d'avoir du matériau au centre d'un arbre pour que ça tienne debout, du moment qu'à la périphérie, il y a ouais. suffisamment de matériaux pour le tenir debout.
Et il y en a des beaux, hein. Il y a des très très belles photos dans le livre.
Oui.
Il y a l'arbre de la reine Elisabeth
oui,
première,
qui est un arbre, c'est un anglais.
Dans le Sussex,
voilà,
hein.
C'est un chêne, alors très âgé,
ouais.
Plus de 400 ans si mes souvenirs sont bons, et qui est complètement creux.
C'est ça.
Mais il y en a, par exemple, en Normandie, vous allez faire tous les cimetières de Normandie, vous trouverez des ifs de toute beauté dans ces cimetières, dont la plupart sont
donc la vie
à cœur
est
ouvert.
À la périphérie.
La
quoi,
vie
finalement.
Est à la périphérie, et il leur reste suffisamment de matériaux pour tenir debout.
Annick voudrait savoir si le lierre qui grimpe le long des troncs d'arbres vivants, parfois de jolie façon, peut être nocif à la bonne santé de l'arbre.
C'est une super question, je la remercie parce que je suis une militante du lierre. Le lierre, c'est un trésor de biodiversité pour la biodiversité dans vos jardins, dans les villes, etc. Donc, pour répondre à la question, le lierre n'a aucun impact sur l'arbre, mis à part le poids qu'il rajoute à son tronc. Un lierre, ça peut grossir très fort. Et si l'arbre, effectivement, est creux, fragilisé, sénescent, il y a un moment où le lierre va faire écrouler le tronc. Mais si l'arbre est en pleine santé, la croissance de l'arbre sera toujours plus rapide que celle du lierre.
Donc ça ne l'étouffe pas.
Ça ne l'étouffe pas. Le lierre n'étouffe jamais les arbres, sauf les arbres en fin de vie. Donc, et au contraire, le lierre, même en poussant sur le tronc, en grimpant sur le tronc, donc d'abord, il n'enfonce rien dans le tronc, hein, il s'accroche tout simplement, et il va le protéger du froid et du chaud.
Catherine Laine, pro-lierre.
Pro-lierre, absolument.
Allez, vous
il y
restez
en a
avec
tellement
nous.
Encore à dire.
Encore plein de questions dans un instant.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les bastons de regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te
fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis, triste face à face, poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent, flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire.
Respire, Gaël Faye, à l'instant sur France Inter. Nous sommes encore pendant 5 minutes avec notre invitée Catherine Laine et cet ouvrage, vous avez dit, Bizarbre aux éditions Belin. Merci pour cet hommage à la tête au carré dans le livre.
Oui, je pense.
Il y a un
vous,
chapitre
Mathieu.
Tête au carré au sujet des houppiers aplatis. Alors, oui. Ça, on a tout de suite l'image sur les arbres fruitiers, par exemple.
Oui, en fait, c'est ça. C'était là encore le prétexte pour parler de la taille et en particulier la taille des fruitiers.
C'est ça.
Où on a cette belle photo de ce poirier merveilleux là sur le mur d'une abbaye.
Complètement aplati.
Complètement aplati, donc je trouvais rigolo de le mettre dans les bizarres. C'est un arbre en deux dimensions, en fait.
Ouais.
Parce que finalement, on l'empêche de construire son houppier en trois dimensions.
C'est ça. Et il a vraiment
on
la
le
tête
conduit,
au carré.
En fait. Voilà, il a la tête au carré.
Adrien voudrait savoir, Catherine Laine, le besoin d'eau nécessaire pour un arbre, par jour, par exemple.
Alors, donc un arbre, ça boit énormément. Ça dépend, évidemment, de la taille de l'arbre, de l'essence de l'arbre, des conditions dans lesquelles il vit. Mais on peut donner un chiffre, en gros, c'est au moins 300 à 400 litres d'eau par jour. Donc, en pleine croissance, hein, 300 à 400 litres d'eau par jour, c'est absolument énorme. Et savez-vous que cette eau qui est bue par les racines, qui rentre par les racines, près de 95% de cette eau ne fait que traverser l'arbre. Elle est évaporée par les feuilles, transpirée à travers la pellicule des feuilles, donc évapotranspirée, ce qui refroidit l'air autour de cet arbre, ce qui climatise l'air autour de cet arbre, d'où l'intérêt d'avoir des arbres dans nos villes.
Voilà, petit message
au passage.
Et de garder les vieux arbres, ceux qui ont des houppiers très larges, plutôt que de couper ce vieil arbre et se dire « c'est pas grave, on va en replanter 10 », ça n'a aucun équivalent. Un vieil arbre n'a aucun équivalent en jeunes arbres.
Et ça, c'est valable pour tout. Il faut c'est toujours conserver son vieil
donc
arbre.
Donc, sur le fait d'aller planter un milliard d'arbres, par exemple.
Alors, c'est louable, mais ça doit s'accompagner de mesures pour protéger ceux qui sont déjà là. C'est ça, surtout.
Surtout que les vieux arbres sont beaucoup plus intéressants qu'une jeune pousse.
Eh bien, si vous voulez, dans les vieux arbres rendent beaucoup plus de services écosystémiques. Les services rendus aux écosystèmes.
Ouais.
Un vieil arbre, ça va accueillir une biodiversité.
C'est pour ça qu'un jeune arbre ne remplacera jamais un vieil arbre. Hein,
voilà,
même si
il faut lui laisser le temps, mais il faudra 200 ans pour qu'il devienne vieux.
Et les amoureux qui poussent à deux aussi. Parce qu'il y a des arbres qui ont une vie amoureuse mouvementée, c'est ce que vous décrivez.
Alors
qui,
oui, c'est entre
guillemets. Qui poussent quasiment à deux.
Voilà, c'est ça. Donc là, c'est aussi le prétexte pour parler de toutes les greffes entre les axes, les troncs, les racines, etc. Donc, ce qu'on appelle en science les anastomoses.
Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend comme chose avec ce livre? En plus, c'est tout à fait... accessible à tout le monde,
oui.
Donc c'est de la bonne science pour découvrir le monde des arbres, et ça s'appelle, vous avez dit, Bizarbre, c'est chez Belin, vous signez cet ouvrage Catherine Laine, avec beaucoup de photos aussi, hein, une très grande icono, merci beaucoup d'être venu nous en parler, et puis on peut aller tout de suite sur le compte Instagram de la Terre au Carré, parce qu'on a mis aussi des photos de très bizarres arbres.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.